Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Esprit Occitanie, votre émission Sentinelle d'Humanité, émission coproduite par l'ANRAS, Association Nationale de Recherche et Action Solidaire. À mes côtés, Yanis, mon complice à la technique et à la réalisation, et votre serviteur, André Satenza. Je reçois aujourd'hui Monsieur Philippe Jordi, directeur général de l'ASEI, Agir, Soigner, Éduquer, Insérer. Je ne me suis pas trompé. Ça a été préparé.
Impro.
Depuis 2017, le handicap constitue une des grandes priorités, pour dire, ou un des grands chantiers du quinquennat du président Macron. Le comité interministériel confirme des avancées concrètes pour 12 millions de nos concitoyens en situation de handicap. Et il y a également 8 millions d'aidants, des familles qui s'investissent au plus près des personnes en situation de handicap, fragiles, vulnérables. Plusieurs thématiques au sein de ce comité interministériel: l'école inclusive, l'accès à l'enseignement supérieur, l'apprentissage, le droit, bien entendu, pour tous. Monsieur Philippe Jordi, vous êtes à la tête d'une très belle institution, présente dans plusieurs régions, mais avant tout, fondée dans cette belle région d'Occitanie. Vous êtes diplômé de la prestigieuse École de santé publique, communément École de Rennes, et vous avez une carrière comme inspecteur des affaires sanitaires et sociales, très vite directeur général d'établissements sanitaires et médico-sociaux, directeur de clinique dans le monde mutualiste, et depuis 2006, directeur de l'ASEI, Agir, Soigner, Éduquer, Insérer. Monsieur Jordi, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci Andrés, je suis très, très honoré d'être là aujourd'hui. Je ne suis pas tout à fait aussi optimiste par rapport au CIH, puisqu'on est depuis 5 ans dans un monde dans lequel il y a eu incontestablement des avancées, mais peut-être un peu plus de communication que d'action réelle. Mais voilà.
Mais nous allons aborder ces questions. Et je sais d'ailleurs que vous avez l'esprit critique, que vous êtes un lecteur assidu des politiques sociales dans notre pays. Mais abordons d'abord votre institution, très belle institution. Si vous la décriviez, et bien entendu nous donner les champs d'action de votre association.
Alors l'ASEI a été fondée en 1950, mais il faut faire un tout petit peu d'histoire parce que ça explique aussi justement, puisque vous parlez d'institutions. 1950, c'était la sortie de la guerre, surtout dans notre région, avec la résistance, et donc la volonté d'un certain nombre de trouver une place à des personnes poliomyélitiques qui ne trouvaient pas de place à l'école. Donc, et c'est là où on voit bien la base entre la différence entre le système européen français et le système anglo-saxon ou nordique. Le recteur a été sollicité et comme réponse, il a offert un établissement qui se trouvait à Ramonville, c'est-à-dire en plein milieu des champs, dans lequel il a été prévu de créer un lycée, un collège qui existe toujours aujourd'hui, dédié aux personnes handicapées.
C'est le siège historique, Ramonville.
C'est le siège historique, mais si on avait été dans un système anglo-saxon, on aurait obtenu d'avoir tout de suite, dans une classe ordinaire, des places dédiées à ces personnes un petit peu différentes.
On est en retard quand même. La France est en retard. La République est en retard.
Moi, je ne suis pas d'accord.
Non, c'est une autre,
c'est une autre histoire. L'histoire, elle est. On était dans un monde de l'exclusion. Encore, si on a autant de lits dans la Lozère, dans les Hautes-Pyrénées, dans la Vendée, c'est qu'il y a des familles qui abandonnaient leurs enfants et qui n'avaient pas envie de s'en occuper. Donc là, maintenant, on découvre que la société devrait être inclusive, mais elle a été quand même essentiellement exclusive, et heureusement qu'il y a eu des militants, comme il y en a eu à l'Andras, comme il y en a à l'ASEI, comme il y en a dans de belles associations dans notre région, qui se sont battus pour pouvoir trouver des solutions. Donc on est parti de ça. Donc c'est parti d'une école, c'est d'éduquer du grec maître debout pour permettre à ces personnes d'avoir un devenir. C'est pour ça que la notion de parcours, quelque part à l'ASEI, est quelque chose qui... On a commencé par ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette personne qui est différente, qui a des difficultés pour se mouvoir et pour qu'elle puisse quand même recevoir une éducation et pouvoir avoir un avenir.
Alors aujourd'hui, c'est combien d'établissements vous êtes présents dans l'ensemble de l'Occitanie, vous êtes y compris hors l'Occitanie, je crois que vous êtes également à Paris. Allez-y, décrivez votre association.
On est parti de Ramonville, donc Haute-Garonne, handicap physique, handicap sensoriel aussi, et puis après progressivement handicap, ce qui est devenu le handicap psychique, et puis progressivement c'était les enfants, puis après les adolescents, puis les adultes. Et on s'est déployé au fur et à mesure de solutions à trouver et à donner à ces personnes. Donc on est parti de la Haute-Garonne, et puis après ça a été Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Pyrénées, et puis on a grignoté sur ce qui était le Languedoc-Roussillon à l'époque avec l'Hérault et puis l'Aude. Et de l'autre côté, on s'est développé sur les Pyrénées-Atlantiques, ça c'est un petit peu plus récent, et encore plus récemment sur Paris, où nous avons un ensemble de 400 places réparties sur 4-5 établissements qui sont intramuros parisiens. Tout ceci, ça représente à peu près 4000 solutions que nous proposons, puisqu'on a aussi bien du soin de suite et de rééducation, donc du sanitaire, un gros établissement sur Ramonville, le centre Paul Bedottin. Nous avons aussi deux EHPAD, puisque nous avons été jusqu'au bout de la logique.
Donc des adultes, des enfants et des jeunes adultes, pourrait-on dire.
Comme on le dit, et sans plagier quelqu'un de la bande dessinée, mais nous, c'est encore plus vaste, c'est de 0 ou de 2 jours jusqu'à 102 ans. Voilà, et donc nous avons des situations qui sont appropriées aussi aux besoins, sans que ce soit un principe de filière, puisque nous avons notre modèle, c'était toujours d'essayer de trouver des solutions de droit commun pour permettre, en milieu ordinaire, d'offrir des solutions à ces personnes.
Les verbes d'action de votre association, agir, soigner, éduquer, insérer, c'est une sorte de tétrapharmacon, c'est-à-dire vous êtes là pour soutenir ces personnes. Agir, c'est donner des capacités d'agir à ces personnes, agir pour eux, agir avec elles. Quelle est votre philosophie dans ce verbe d'action, agir? Ça veut dire quoi pour l'ASEI?
Alors, c'est très fort. Je vois, monsieur Matenza, que vous connaissez bien l'ASEI, parce que derrière, c'est aussi notre baseline. Notre baseline, c'est aussi agir pour l'inclusion. Et comme le répète souvent notre présidente Nadine Barbotin, c'est le mot agir qui compte. C'est-à-dire l'action militante, l'action de protestation, mais aussi l'action pour pouvoir faire évoluer nos établissements, nos services, nos professionnels, et de l'autre, tout ça au service des personnes qui ont besoin de nous et qui ont besoin qu'on se bouge et qu'on les bouge aussi en même temps.
Et soigner, le soin. Là, le soin, c'est quand même... Alors, nos institutions, c'est important, le soin. Alors, le soin, c'est une pratique assez singulière.
Alors le soin, c'est le soin, le prendre soin, quoi. Comme on n'a pas comme les anglo-saxons de mots, mais c'est le soin pur à travers ce qu'on avait aux soins de suite et de rééducation et qu'on a toujours. On a une partie sanitaire à l'ASEI et on s'en est rendu compte pendant toute cette période de l'épidémie. On a eu besoin de recourir à soigner les personnes. Aujourd'hui, quand on est dans un EHPAD, quand on est dans une masse, on soigne. Et on soigne d'un point de vue très concret. Et de l'autre, c'est la notion de prendre soin avec tout ce qu'on peut appeler aussi à accompagner. Et je crois que c'est l'histoire de l'ASEI. Ça, on est passé de la prise en charge, qu'on entend encore un peu, mais de moins en moins. On est passé à l'accompagnement, qui va avec la notion de personne, on déploie en fait les lois de 2002-2005. Et maintenant, on est en train de rentrer dans le soutien, c'est-à-dire le soutien de la personne, qui est donc dans son autodétermination, d'où le éduquer, mettre debout la personne de tout à l'heure.
Et insérer par la suite, insérer dans la société, donc l'inclusivité.
Voilà, alors ça dépend pas que de nous. Nous, on a toujours ce côté, moi j'ai souvent tendance à dire que la société n'est pas naturellement inclusive et que les personnes ont encore besoin de nous pour leur permettre d'avoir la compensation déjà par rapport à leur handicap. Et ça serait très dangereux de les considérer comme des personnes ordinaires. C'est un peu ce qu'on voit avec la hache. On a l'impression qu'on peut leur appliquer le même rôle que les autres.
Monsieur Jourdi, juste pour nos auditeurs qui ne sont pas connaisseurs de ce secteur...
Eh oui, l'allocation adulte handicapé.
Voilà, mais vous avez dit tout à l'heure une masse. C'est quoi une masse ?
Maison d'accueil spécialisée.
Et donc, chaque fois, d'accord, vous avez dans chaque secteur une institution, un établissement qui répond à un besoin spécifique.
Voilà. Et on doit avoir, c'est assez effrayant dans notre secteur, les cycles qui se développent et qui se déploient. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de parler comme ça entre
mais
nous.
Mais ça, c'est le langage de nos professionnels.
Oui, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour les personnes qui ne connaissent pas tout ça et que ça effraie plus que ça ne rassure. C'est vrai. Voilà.
Et c'est important de pouvoir faire cette pédagogie. D'ailleurs, Sentinelle d'Humanité, cette émission sur le secteur social et médico-social, se veut d'être une émission pédagogique pour rendre visible ce qui semble être invisible aux yeux de la société. Agir, soigner, éduquer, insérer, c'est un beau slogan.
Mais qui est en train de devenir inclure, hein, si je puis me permettre. Là, on vient de changer les statuts. Ça fait 2 ans et le Conseil d'État tarde un peu à nous les rendre, puisque nous sommes reconnus d'utilité publique, c'est-à-dire que nos statuts associatifs sont validés par le Conseil d'État, ce qui lui donne quand même une grande compétence pour pouvoir recevoir, une compétence juridique pour pouvoir recevoir des dons. Et de l'autre côté, bon, mais ce sont tous ces appellations qu'il faut expliquer. Après, on est aussi reconnu d'intérêt général, on est aussi reconnu d'utilité sociale. C'est tous ces mots qui derrière, peut-être que parfois on se cache un peu trop derrière des mots et qu'il vaut mieux expliquer et surtout arriver à prouver
ce que nous faisons, ou ce que vous faites.
Voilà.
Je sais que vous êtes également militant de la cause sociale et du médico-social. J'ai oublié tout à l'heure dans votre présentation de dire, je le dis, je rectifie de suite, le délégué régional de la FEAP, qui est une fédération, un mouvement qui défend les intérêts, bien entendu, des établissements et des associations de votre secteur. Vous nous en parlerez tout à l'heure parce qu'il y a des dossiers très sensibles aujourd'hui sur lesquels il faut, bien entendu, aborder. AZI, aujourd'hui, c'est combien de salariés dans le...
Aujourd'hui, on a 3400 salariés en équivalent temps plein. On doit être à 2800 et aussi 110 mis à disposition par l'Éducation nationale puisque nous avons cette spécificité d'être historiquement en lien et on le renforce de jour en jour avec l'Éducation nationale qui nous met donc des professeurs et aussi d'autres agents à disposition.
Les grandes catégories de personnel, c'est éducateurs spécialisés plutôt, moniteurs, des psychologues, à grands traits, comment on pourrait décliner.
Vous allez retrouver mon côté militant parce que je les ai classés aussi en fonction de ceux qui étaient indispensables et des autres, et incontestablement la première catégorie, à ma grande surprise d'ailleurs, parce que je pensais que c'était assez proche, ce sont les soignants.
Les soignants.
Ce sont les soignants, infirmières, aides-soignants et toute la catégorie kiné, ergo, psychomote, etc., etc., et aussi bien entendu les médecins, que j'aurais dû citer en premier dans la catégorie des soignants. Et juste derrière, ce sont les éducatifs et ce sont les deux catégories les plus importantes, et puis après la troisième qu'on peut regrouper entre logistique et administratif, dans lequel il y a aussi tout ce qui est direction. Et on essaie toujours de privilégier dans notre organigramme de faire en sorte que les soignants et les éducatifs, c'est-à-dire ceux qui sont plus proches des personnes qu'on accompagne, soient en plus grand nombre.
Financement par les agences régionales de santé, financement par le conseil départemental. Est-ce que vous avez d'autres financements et cela représente quel budget pour mener cette action pour l'ensemble des familles et des personnes que vous accompagnez ?
Au total, ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, parce qu'il y a différentes sources de mes chiffres d'affaires ne voulant pas dire autre chose que dans une association à but non lucratif, c'est l'ensemble des activités qui apportent un budget de 210 millions d'euros, dans lequel on a dans des activités propres, c'est-à-dire l'activité commerciale de nos ESAT, établissements et services d'accompagnement au travail.
Là, ce sont des travailleurs, on dit, en situation de handicap,
qui ont
une fonction de production.
C'est ça. qui ont d'abord, les ESAT sont d'abord des établissements médico-sociaux où on les accompagne. C'est pas le travail qui est protégé, c'est les personnes qu'on accompagne, que l'on protège, en les ouvrant progressivement par le biais de la formation. Et donc, nous avons un budget médico-social pour pouvoir se faire. Et de l'autre côté, il y a une activité de production, parce que de l'autre côté, ils touchent un salaire, donc il y a cette approche. Mais ils ont bien le statut de personne handicapée, protégée par le secteur médico-social.
Et vous avez dit qu'ils ont un salaire, ça veut dire qu'ils ont un contrat, ce sont des travailleurs. Mais vous en avez combien ?
Mais ils ne relèvent pas du Code du Travail. Et on a à peu près un peu plus de 900 au total dans l'ensemble de nos ESAT. Donc 210 millions dans nos fonds propres, dans cette activité représente, je crois, 8% sur l'ensemble des choses. Pour le reste, c'est essentiellement l'ARS à 75% et 25% les conseils départementaux. Et puis, bien sûr, il y a l'assurance. Quand je dis ARS, c'est aussi assurance maladie.
C'est assurance maladie.
Et mutuelle.
Voilà. Vous avez vécu, et nous avons vécu dans le secteur, cette crise pandémique, l'ensemble de nos concitoyens, mais en particulier nos associations ont eu à surmonter des grosses difficultés. On peut dire que nos professionnels, vos professionnels, ont été en première ligne, ils ont accueilli, ils ont fait le job, ils étaient là, ils ont fait des prouesses pour accompagner et soutenir les personnes. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet événement, de cette situation aussi particulière ? Michel Foucault, le grand philosophe, disait qu'il faut essayer d'identifier ce qu'est l'événement sans être un athlète de l'événement. Que s'est-il passé pendant cette période dans l'association ASEI ?
On a été un peu, les professionnels ont été un peu des athlètes pour être aux côtés des personnes accompagnées. Avec une première période très 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 brutale, à partir du 16 mars, je crois, 2020, et tout ceci pendant 2 mois, dans lequel on nous a prié de fermer les établissements pour enfants et adolescents, de les renvoyer chez eux, très brutal. De l'autre, d'enfermer les personnes adultes et âgées, les enfermer presque dans leur chambre, de façon comme si quelque chose de terrible allait arriver, qui n'est pas arrivé. Donc ça nous a permis aussi et j'aurais tendance à dire heureusement, parce que ça nous a permis aussi de nous rendre compte que nous n'étions pas prêts collectivement à faire face, et je ne veux pas revenir sur les éléments, sur les masques, sur les protections, mais ça nous a permis, nous, assez vite, de pouvoir nous organiser par rapport à ça, mais surtout pour les enfants et les adolescents, d'obliger les professionnels qui l'ont fait, je dois reconnaître, avec beaucoup d'enthousiasme, de se dire comment on va pouvoir continuer à maintenir l'accompagnement en étant à distance. Et donc, on a mis en place des tablettes, on a mis en place des outils et tout cet ensemble-là, et des visites aussi à domicile, ce qui a permis aux éducateurs et aux personnes soignantes d'être auprès, de pénétrer dans les domiciles et dans l'intimité finalement des familles, et de permettre à montrer aussi aux familles qui étaient un petit peu désemparées par rapport à ces jeunes qui se retrouvaient en face à face. Et là, on sortait d'un contexte de week-end ou de petites vacances, et qui se sont rendus compte très clairement ce qu'apportaient les professionnels. Donc ça, je crois que ça a été, j'essaie de le trouver positivement, parce que pour le reste, ça a été quand même une période très, très compliquée. Et alors, par contre, la deuxième vague à partir du mois d'octobre, toujours en 2020, là, ça a été très difficile, parce que là, il y a eu de l'infection. Là, on le suivait en permanence. On a eu notamment dans un de nos EHPAD des décès. Sur Paris, on a eu des professionnels. Ça, c'était dans la première vague qui se retrouvaient. On a un service de soins infirmiers à domicile qui se retrouvait avec du papier hygiénique et juste des sacs poubelles pour pouvoir continuer à le faire. Et ils l'ont fait. Et on a des salariés qui se sont retrouvés, même en réanimation, il y a eu quelques-uns qui ont été touchés très violemment et qui le portent encore, parce qu'on est en train de découvrir, mais on le savait depuis un certain temps, que le Covid peut être long. C'est-à-dire, le temps de récupération, on n'est pas dans les statistiques. Moi, j'en veux beaucoup avec cette approche purement statistique. Par exemple, là, aujourd'hui, on sait qu'il va y avoir encore des morts du Covid. Mais c'est de la stat, quoi. C'est vraiment.
Il faut mettre de la chair pour que les gens comprennent. C'est pas une grippette, cette affaire.
Et ça l'est toujours pas, parce que là maintenant, on a cru que tout était libéré. Là, moi, en venant ici, j'ai traversé. Tout le monde est heureux. Tout le monde. Tout le monde s'embrasse et les masses commencent à se promener, sauf qu'on sait qu'il y a les variants Delta et autres, et sans être l'oiseau de mauvais augure, et surtout sans stigmatiser par la vaccination, qui est effectivement et absolument nécessaire. Et je trouve merveilleux qu'au niveau international, qu'on ait trouvé en l'espace d'un an et demi 4-5 vaccins. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas que les héros d'hier deviennent les salauds d'aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas tous vaccinés. Je crois que là, il y a aussi, on peut tout comprendre, mais il faut arrêter de faire de la com, il faut arrêter de faire de la stigmatisation, parce qu'à l'ASEI, on arrive à entre 65 et 70% qui sont vaccinés. Les autres, ils sont absents, on a un taux d'absentéisme assez gros pendant cette période. On est à 14-15% en moyenne, ça veut dire que dans les établissements, il y en a encore un petit peu plus, avec tous les problèmes de ressources humaines que ça pose. Et puis les autres sont partis en vacances. Donc moi, quand je reçois, comme j'ai reçu une lettre de notre ministre de la Santé, me stigmatisant à mon tour en me disant « faut que vous fassiez vacciner vos salariés », un, je n'ai pas le droit de leur demander s'ils sont salariés, s'ils sont vaccinés ou pas. Et de l'autre, on fait la com parce qu'on y croit. Donc on n'a pas besoin de continuer à être infantilisé. Ça suffit, quoi. On a fait le job, quoi.
D'ailleurs, je crois qu'à plusieurs reprises, vous avez dit dans d'autres lieux que la loi d'urgence sanitaire nous avait permis d'être en mode dérogatoire et que c'était une bonne chose.
Oui. On s'est trouvé dans une situation où là, il y a eu tout. Là, il y a eu ce côté stigmatisant et infantilisant et dans lequel il y avait de la com, là où d'un seul coup, on a trouvé 30 millions de spécialistes un petit peu partout. Mais de l'autre côté, ça a permis aussi d'avoir une certaine liberté parce que d'un seul coup, les pouvoirs publics, et moi, je salue le travail qui a été fait par l'ARS, en tout cas au niveau de l'Occitanie, avec les moyens qu'ils avaient, avec la difficulté qu'ils avaient au début, il y a eu de l'intelligence collective où on a essayé déjà avec les pouvoirs publics qui nous ont dit si vous avez trouvé des solutions, sortez des mesures dérogatoires, vous pouvez augmenter votre capacité, vous pouvez au niveau ressources humaines, et là on a fait beaucoup de dialogue social pour expliquer aussi aux représentants des personnels ce qu'on était en train de faire et pourquoi on était en train de le faire, y compris le télétravail, tout cet ensemble qui a été quand même très violent. Dans un premier temps. Tout ça, on l'a fait. Ça nous a permis aussi d'avoir ce sentiment d'utilité et de pouvoir être en première ligne. Et là, je dois reconnaître que c'est quelque chose que j'aimerais bien qu'on puisse arriver à conserver.
Peut-être qu'il faut du dératoire. Juste une courte page et je vous propose d'écouter Boïka, une voix sublime. Elle vient d'ailleurs.
Thank you. cuando se me fue y aquella tranza de palandrino que en otro tiempo junto pa' él. Cuando se marchaba no intentó mirarla, ni esbozó un quejío ni le dijo adiós. Entornó la puerta y pa' no llamarla se clavó las uñas en el corazón. Gitana que tú serás como la falsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda.
Toujours Esprit Occitanie, émission Sentinelle d'Humanité. Je suis aujourd'hui accompagné de Philippe Jordi, le directeur général de l'association ASEI, Agir, Soigner, Éduquer, Insérer. Nous faisons un tour, bien entendu, des politiques sociales du handicap, du social, de l'intervention, du soutien. J'ai parlé tout à l'heure du comité interministériel. Nous parlerons de la politique de Madame Cluzel, mais continuons le travail et notamment notre conversation autour de l'action de vos professionnels pendant cette période. Et revenons à une question, vous avez dit des bonnes relations avec l'éducation nationale. Quelques chiffres confirmés, société inclusive, 384 000 jeunes en situation de scolarité dans les unités d'enseignement. Vous aussi, vous avez des unités d'enseignement externalisées, vous avez des ULIS, vous avez dit que vous aviez des professeurs de l'éducation nationale, l'équivalent de 100, 150. C'est vous qui animez, c'est vous qui les payez, c'est vous qui menez leur carrière professionnelle. Comment cela se passe avec les enseignants qui sont mis à disposition par le rectorat ou par l'éducation nationale, comme on dit communément?
Oui, mis à disposition, ça veut dire qu'ils gardent leur corps d'origine, qu'ils sont payés par et évalués par leur corps d'origine et qu'ils sont donc mis à disposition.
Et c'est vous qui organisez le travail, c'est ça.
Et c'est justement tout ça qui doit se faire, cette relation magique. Et c'est là où on y va avec beaucoup d'humilité, parce qu'on se rend compte que même dans nos établissements, pour arriver à trouver la bonne maille pour que d'un côté il puisse y avoir les enseignants, l'enseignement de qualité, et de l'autre côté que l'éducatif et le soin puissent arriver à être en harmonie, ça nécessite beaucoup de compréhension, beaucoup d'échanges, beaucoup une forme de militantisme aussi, qu'on retrouve très bien dans l'éducation nationale. Il y a vraiment des personnes dont je salue le professionnalisme, mais on retrouve la même difficulté qu'on peut retrouver aujourd'hui, que maintenant qu'on est rentré dans les écoles aussi à l'extérieur. C'est qu'il y a des endroits où ça marche très bien. D'une façon générale, on est effectivement partenaire. Monsieur Blanquer l'a retenu. Chaque rentrée scolaire, on parle surtout de ceux qui ne marchent pas, mais globalement, si on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a des...
Il y a une progression nette dans cette affaire.
Il y a une progression qui est évidente. Et de l'autre côté, nous, le fait d'avoir cet établissement scolaire dans lequel on n'extrait pas les personnes, simplement qu'on a des unités dans lesquelles on a des enfants de plus en plus lourdement handicapés, qui nécessitent d'avoir des classes qui ne dépassent pas 10 personnes, mais la plupart du temps, c'est des petits groupes de 6, 7, parce que de l'autre côté, on s'occupe autant de leur handicap que de leur apprentissage. Avec cette nuance comme de taille, c'est que les programmes qu'ils ont, ce sont les mêmes programmes que l'éducation nationale. Donc ceux qui passent le bac, globalement, ils ont les mêmes épreuves adaptées à leur situation, mais ils le font. Et de l'autre, j'aurais presque envie de dire, le plus important, c'est les 18, on doit mettre même maintenant en être à 20, unité externalisée d'enseignement que nous avons développée, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on vient à Ramonville, oui, certes, il y a le centre de l'inclusion par la scolarité Jean Lagarde, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe au lycée Bellevue, c'est ce qui se passe, je pourrais en citer aussi 7 ou 8, dans lesquels nous sommes présents et dans lesquels on continue aujourd'hui avec les unités mobiles, dans lequel nous nous sommes complètement engagés. Nous en avons une actuellement et nous avons répondu aux appels à projets pour pouvoir continuer.
Alors,
à
une unité mobile, cela veut dire que ce sont vos professionnels, psychologues, psychiatres, éducateurs, qui se déplacent directement sur l'établissement scolaire.
En sachant que leur rôle, c'est de venir soutenir les enseignants. Ce n'est l'équipe, pas de
l'équipe,
venir
la
intervenir
éducative.
Directement auprès des jeunes.
Hein. D'accord.
Soyons bien clairs par rapport à ça. Nous venons en soutien et nous allons le renforcer. On a des rencontres très régulières avec l'éducation nationale à tous les niveaux, parce qu'aussi bien, certes, là on parle de la Haute-Garonne, mais on est présent aussi dans les ITEP qui sont devenus les DITEP, et dans les IME et dans les IEM. Je recommence, un institut thérapeutique éducatif pédagogique, on a les instituts d'éducation motrice, ça c'est pour le polyhandicap motrice, et puis le troisième, les instituts médico-éducatifs, dans lesquels nous avons aussi ce mix, et de la tendance aujourd'hui est de sortir de nos murs et globalement d'aller rejoindre l'école. Et on a une transformation du nombre de places d'hébergement complet, qu'on appelait avant internat, je trouve que le mot est terrible, mais on les transforme en services, et des services qui vont du domicile à l'école. Quoi. Et ça, c'est notre vocation première.
Vous êtes satisfait et vous reconnaissez qu'il y a des avancées considérables dans notre pays sur cette question de la société inclusive, et vous dites, oui, il faut saluer le travail qui est fait, les belles réussites, mais parfois vous dites, ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Quels sont les éléments extérieurs qui viennent perturber cette dynamique de la société inclusive, selon vous?
Là, ça nécessiterait une émission un petit peu plus longue, mais je crois qu'on est dans un pays naturellement tatillon et administratif, et qu'à force de vouloir réguler les choses, moi je suis tout à fait partant pour qu'il y ait des procédures, qu'il y ait des protocoles, mais il y a à quel moment l'ensemble de ces procédures viennent bloquer l'action, c'est là où il faut à peu près arriver à le passer. Si vous regardez le parcours d'une mère qui, avec son enfant, veut trouver une solution pour son enfant et qui doit passer par le parcours maison départementale des personnes handicapées, la commission des droits à l'autonomie de la personne handicapée, après aller voir un directeur, essayer de trouver une place, entre guillemets, alors que parfois elle cherche juste une prestation, ça devient...
C'est un véritable maquis, vous êtes en train de décrire, là.
C'est quelque chose d'administrer, voilà. Pour répondre à votre question, malheureusement, on est trop administré au regard de l'action, alors que de l'autre côté, on a des contrôles, on est structuré. Je crois que, vous avez rappelé mon passé, moi j'ai aussi le sens du service public, je comprends absolument tous les contrôles, mais on l'a vu pendant cette crise, à partir du moment où ça se lève, on a d'un seul coup des initiatives qui peuvent se faire et qui ne coûtent pas obligatoirement cher. Moi, ça me fait mal au cœur d'entendre des familles, à l'heure actuelle, entendre dire on n'a pas de solution ou c'est très compliqué. On est intervenu il n'y a pas très longtemps sur quelque chose qui a défié la presse, qui était une femme qui était sur une grue et qui ne voulait pas, du côté de Purpoint, qui ne voulait pas descendre si on ne trouvait pas une solution.
On a vu ça. C'est terrible d'arriver. Donc, vous voyez la détresse de cette famille pour dire je veux simplement qu'on s'occupe de mes enfants et qu'on me trouve une solution. D'ailleurs, tout à fait modeste, c'était trouver un logement à proximité.
Ouais. Et d'ailleurs,
ça, c'est compliqué.
Avec un bailleur social de qualité et une association de qualité qui est là, on lui a trouvé une solution.
Donc on peut trouver des solutions.
Et on peut en trouver d'autres sans aller à genre d'excès, mais de l'autre côté, on a des systèmes. Le système, l'approche de lancement d'une réponse accompagnée pour tous. On a la chance d'être dans un secteur dans lequel on a eu des belles lois. La loi 2002-2005 qui correspondait aussi à un engagement fort du président Chirac à l'époque et qui avait été porté vraiment très fortement par cette loi. Et de l'autre, on a aussi des rapports qui sont bien faits par l'IGAS, par M. Piveteau, conseiller d'État, qui le joint avec M. Wolfram, bien connu des bailleurs sociaux, pour arriver à trouver à esquisser des solutions. Après, la question, c'est comment on passe à l'acte. Et c'est là où je crains que l'administrativo-économique ralentit un petit peu l'action. En tout cas, moi, s'il y avait qu'une chose à lever, c'est un certain nombre de freins. Et quand je dis ça, je ne remets pas en cause du tout la légitimité d'un contrôle, parce que ce sont des fonds publics, ce sont des fonds de la solidarité nationale. Donc, c'est normal qu'on en rende compte.
Comme acteur majeur dans le secteur, est-ce qu'on peut dire que les associations font le job dans le métier du social, le médico-social et du sanitaire, et pas uniquement, et qu'on fait un vrai travail à côté de la puissance publique?
Alors moi, j'ai un problème, et je pense que vous avez le même, c'est que moi, je regarde toujours ce qui reste à faire plus que ce qui a été fait. Donc c'est intéressant de temps en temps, grâce au contrat pluriannuel d'objectifs ou de moyens, ou des projets associatifs. Parce que là, il y a toute la gouvernance associative qui est importante. Et c'est vrai qu'à l'ASEI, avec la présidente Barbotin et puis l'ensemble des administrateurs, on a vraiment une personne morale et une approche politique qui est assez forte. Et de l'autre côté, moi, je suis avec une équipe de grande qualité pour pouvoir arriver à mettre en œuvre cette stratégie et non pas la réduire à une approche technique. Moi, l'approche technique, il y a des gens qui le font très bien. Mais moi, je regarde comment, d'un point de vue stratégique, on peut arriver à le faire. Et moi, je pense qu'on fait notre travail, mais on pourrait en faire encore un peu plus. Alors, il y a des choses qui sont dans notre jardin. Et puis, notamment le dialogue avec les parents, le dialogue avec les associations d'usagers, les associations de parents. On a des choses encore à améliorer, à mieux se faire comprendre.
Les parents interviennent dans votre conseil d'administration, il y a des places. Est-ce que les membres fondateurs, il y a eu des parents au moment de la création de l'ASEI, comment cela s'est constitué?
Alors l'ASEI a été constituée par des militants qui venaient de l'éducation nationale. D'accord. Donc je suis le premier directeur général donc depuis 15 ans, sur 70 ans, à ne pas être de l'éducation nationale. On me l'a fait sentir parfois, mais bon, c'est un choix aussi stratégique
du conseil d'administration,
qui lui aussi, quand je vous dis le centre Paul Dautin, ce n'est pas un chirurgien, c'est un recteur. D'accord. Donc on a quelque chose de très fort et de très proche par rapport à cet ensemble, et on a ça en commun avec d'autres associations, par exemple la Fondation OVE à Lyon, on a à peu près les mêmes années, et on a un certain nombre d'associations qui ont commencé aussi par permettre à des personnes de suivre des cours, d'aller en vacances aussi. C'était quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on est à Salvetat-sur-Agout, qu'on était dans les Hautes-Pyrénées. Donc ça, cette évolution s'est faite. Mais on était dans les représentations de la société civile, avec ce côté assez militant qui peut arriver et qui existe. Donc les parents, nous ne sommes pas une association de parents, au sens où ce sont les parents qui sont en même temps gestionnaires. Par contre, au sein du conseil,
il y a une place
au sein du conseil d'administration, on a un collège sur 28, un collège de 4 personnes qui représentent les personnes accompagnées quand elles le peuvent. En gros, il y en a 2 établissements pour adultes avec à chaque fois obligatoirement une personne accompagnée. Et de l'autre, on a des représentants aussi des parents. Donc il y en a 4, et que j'en profite aussi pour dire, les salariés aussi sont présents avec un collège de 4. Et les uns et les autres ont une voix délibérative. Mais bien entendu, ce n'est pas consultatif, c'est voix délibérative. Donc en gros, ça en fait 8 sur 20, 28. Donc si vous y rajoutez 4 qui sont des personnalités qualifiées, mais qui viennent assez peu. On a le conseil départemental, on a le conseil régional, mais... Et quand je dis ces deux-là viennent, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait le préfet de région et l'ARS qui nous ont dit très clairement qu'ils se réservaient éventuellement le droit de venir, mais qu'ils ne souhaitaient pas être jugés partis, ce qu'on peut comprendre. On est en train d'évoluer, mais c'est vous dire que très clairement, un salarié, le salarié de base à l'ASEI peut se faire entendre au conseil d'administration.
C'est une bonne chose. C'est,
voilà.
C'est une organisation démocratique.
Voilà. Et la personne qui n'est pas satisfaite au sein de l'ASEI peut avoir contact avec la présidente ou avec moi, en fonction si c'est politique ou si c'est stratégique. Et ça, on essaie de le faire, quelle que soit la taille de l'association. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, ce n'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'on s'est structuré par bassin géographique, plutôt qu'auparavant, on était un petit peu trop jacobin, c'est-à-dire qu'il y avait le siège social. Le siège social, il faut quand même expliquer aussi à vos éditeurs pourquoi on a un siège social. C'est simplement parce que la personnalité juridique, elle est unique. Il n'y en a qu'une, c'est au niveau du siège. Les huissiers et les avocats ne se trompent jamais. Ils viennent là.
Ils viennent chercher un responsable, c'est-à-dire le directeur général ou la présidente.
Ou la présidente et son garde du corps, le directeur général.
C'est ça.
Mais autrement, un directeur d'établissement, il a une délégation, mais de l'autre côté, il ne peut pas représenter l'ASI. Donc c'est pour ça qu'on a progressivement déconcentré au sens préfet, pas au sens décentralisé, dans 10 bassins géographiques. Dans lequel, à chaque fois, il y a un directeur bassin et puis une petite forme d'agence pour pouvoir gérer les fonctions support, mais dans lequel il y a une délégation avec toute une équipe de directeurs et d'adjoints pour pouvoir arriver à être au plus proche des personnes qu'on accompagne, des salariés.
Et des équipes.
Parce que j'ai quelque chose d'assez simple qui est de me dire la plupart des problèmes, souvent la solution n'est pas très loin du problème.
Donc, y a peut-être la vérité pas... vient du terrain, c'est ça ?
Voilà. Puis au moment où je fais quelques griefs quand même à une forme trop administrée, on a essayé, si on n'est pas encore tout à fait au bout, mais on a essayé au sein de l'ASI de rentrer dans cette démarche par le biais de la délégation pour permettre à chacun d'avoir une forme d'autonomie qui lui permette de remplir sa fonction.
Je voudrais terminer le chapitre de l'enseignement, de la société inclusive, les unités, par l'enseignement supérieur. Vous avez des jeunes qui sont dans l'enseignement supérieur. Est-ce que ce chapitre, vous l'avez ouvert sur les personnes qui sont les plus âgées, 20, 21, 22, 23 ans ? Et si oui, est-ce que vous travaillez avec les universités, par exemple, ou les lycées, ou les BTS, ou DUT ?
Alors, on a deux BTS, là, sur Ramonville. Mm-hmm. Mais Ramonville, on est très proche de l'université Paul Sabatier.
D'accord.
Donc, il y a des liens et des liens, mais qui se font par les personnes quand ils choisissent de vouloir poursuivre au niveau des universités. Mais on n'a pas de lien réel avec les universités. On essaie à espace régulier dans les deux sens. D'ailleurs, on intervient puisqu'on a aussi un institut de formation qui s'appelle Format Différence, alors qui est sollicité soit par les universités, soit par la ville, soit par des collectivités pour ouvrir les agents au handicap. Donc ça, on le fait.
Et c'est votre organisme de formation pour qualifier, y compris vos salariés.
C'est ça. Voilà.
Une question sur... Parce que je sais que vous êtes sensible à cette question du dépistage. Repérer très vite le handicap, tenter de poser un diagnostic précis pour trouver des solutions, cela se retrouve dans la politique dite nationale. Dépister, repérer rapidement, cela consiste en quoi ? Comment on fait ce travail de dépistage ? Souvent, les enfants nous viennent trop tard dans nos institutions et on agit très tard et cela est parfois difficile pour les accompagner. Dépister très tôt, cela veut dire quoi ? Comment fait-on pour dépister ?
Alors, il y a différentes approches. Le dépistage du handicap.
Bien sûr.
Bon, on a eu, comme on est aussi beaucoup sur le handicap sensoriel, tout ce qui est dys, les dysphasiques, dyslexie et cet ensemble-là, ou tout ce qui est la surdité, c'est un travail qu'on a fait beaucoup avec le CHU, avec le professeur Fraisse en son temps, pour pouvoir arriver à développer aussi ce dépistage au plus tôt, et ça c'est le CHU qui le fait dans les maternités, pour que pouvoir derrière tout de suite enclencher ce dispositif, permettre de comprendre, d'expliquer aux parents ce que ça veut dire, un petit problème, comment ça peut se développer. Il peut y avoir des opérations et il faut savoir qu'à Toulouse, on est l'un des CHU dans lequel il y en a le plus grand nombre, et c'est une activité qui est vraiment très très importante. Ça peut être le dépistage aussi sur lequel on a d'énormes progrès et qu'en France, on n'a pas été bon là-dessus. C'était le dépistage de l'autisme, tout ce qu'on appelle même plus large les troubles du neurodéveloppement. C'est de pouvoir arriver à trouver des diagnostics. Et là, actuellement, avec nos 5 centres médico-psychopédagogiques, on essaie d'être au plus près et surtout de pouvoir avoir accès à des spécialistes pour dépister et faire le diagnostic. Et faire le diagnostic, ce n'est pas obligatoirement enfermer quelqu'un dans son handicap, mais c'est au moins pouvoir arriver à les prévenir. Après, il y a l'autre aspect qui est la prévention, tout simplement, de la maladie normale. Et on se rend compte aujourd'hui que les troubles, par exemple, le traitement de la douleur. La douleur des personnes s'exprime différemment. Des personnes ne savent pas, n'expriment pas de la même façon que vous et moi, surtout quand ils ont des difficultés pour s'exprimer. Tout simplement les soins dentaires ou les soins gynécologiques, c'est des femmes, c'est pas si simple que ça.
C'est pas si simple pour pouvoir travailler avec ces personnes, voilà. Vos professionnels de...
Comme
vous avez
une personne
faire
très
preuve.
Agitée qui pourra aller chez le dentiste, il y a des techniques avec du méopas pour pouvoir leur permettre de pouvoir arriver à être apaisés. Et encore faudrait-il que tous les dentistes ou tous les médecins
se forment,
mais aussi aient des locaux accessibles, parce qu'il y a aussi l'accessibilité parfois physique. Donc, tous ces éléments-là et la crise qu'on vient de traverser nous a beaucoup aidés à ça, parce qu'on a pris conscience de cet ensemble-là et on les a accompagnés aussi et on doit le continuer. On est dans la politique de la prévention du plan régional de santé. Donc, on essaie de le faire. Le CHU aussi s'est ouvert en ouvrant des consultations spécialisées qui ont permis aussi d'arriver à le faire. Et puis, il y a d'autres initiatives. Je pense qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu un travail avec l'Oncopole pour pouvoir arriver à travailler sur cancer et handicap. Et on se rend compte que les personnes de l'Oncopole, quand ils soignent quelqu'un qui est
en situation de handicap, c'est compliqué. Hein.
Ah voilà, mais
très
si
compliqué.
En plus de ça, il est en déficience intellectuelle, et comment arriver à l'exprimer, c'est les soignants qui étaient frustrés de ne pas trouver les mots pour pouvoir arriver à l'accompagner. Et de l'autre, nos salariés qui étaient un peu perdus face à des personnes à qui l'annonce du cancer et tout cet ensemble-là. Donc là, il y a eu un travail commun que j'ai trouvé très, très émouvant et surtout très professionnel.
Vous avez coproduit un colloque, une journée de réflexion sur cancer et handicap.
C'est ça, on l'a fait il n'y a pas très longtemps. Oui.
Mais également, vous avez réfléchi aux questions du sport et handicap. Oui. Donc, vous investissez l'ensemble, pourrait-on dire, du champ de la vie d'un concitoyen en situation de handicap.
On a aussi développé un outil pendant justement cette période un peu spéciale d'épidémie qui s'appelle Kéops. C'est un outil qui permet à distance à des jeunes de pouvoir choisir, alors on pourrait presque appeler ça des devoirs de vacances, mais sans ce côté stigmatisant que peuvent avoir les jeunes qui rentrent en vacances, mais de pouvoir à distance choisir les jeux qu'il a envie de faire, mais des jeux éducatifs, et de pouvoir arriver à le faire. Donc c'est quelque chose qu'on a développé, qui a été retenu et primé par la FEAP dans le cadre des prix de l'innovation, et qui a été aussi en partie financé par des dons que nous avions reçus, pour pouvoir arriver à le construire. Et on est en train de continuer à le développer. Donc, vous voyez, on est aussi dans ce qu'on appelle l'innovation. Et je ne vous parlerai pas du virage de Mirec, parce que là, on en aurait pour des heures, mais là, en l'espace d'un an, on a fait des bandes géants, rien que déjà par rapport à notre capacité à avoir d'un seul coup 2000 salariés qui étaient en télétravail. Donc, il a fallu augmenter d'un seul coup les réseaux. Et puis de l'autre côté, toutes les tablettes, tous ces éléments-là qu'on a fait à distance, qui nous ont fait réellement progresser assez rapidement.
Il y a eu une vraie progression et une adaptation rapide. Cela veut dire qu'on est prêt, si par hasard il y avait une quatrième, cinquième vague, donc on est prêt à affronter cela sans difficulté. Mais ne soyons pas des oiseaux de mauvaise augure.
Je voyais qu'il y avait 36% des Français qui étaient vaccinés, qui avaient reçu déjà les deux injections.
Donc ça va, on est rassurés.
Pas encore, parce que c'est pas assez, mais de l'autre, ça progresse. Quoi. De toute façon, il n'y a pas de plan B, donc il va falloir qu'on apprenne à vivre avec.
Il y a une question que l'on retrouve dans ce plan 2017, de priorité du quinquennat, c'est l'accès aux droits pour les personnes handicapées. Cette question m'interpelle et me laisse dubitatif. Affirmer clairement qu'il faut de nouveau donner accès aux droits à ces personnes-là, on a l'impression qu'on crée un dispositif législatif important, généreux, mais qui n'est pas effectif. C'est-à-dire que les personnes n'en bénéficient pas. Créer du droit qui n'est pas effectif, c'est ne pas avoir des droits du tout, quoi. Comment se fait-il que dans notre pays, il y a des droits et que les personnes ne peuvent pas y accéder à ces droits? Que se passe-t-il, selon vous?
Les faits sont clairs. Hein. 2002, on va fêter les 20 ans. On a reconnu que c'était une personne. On est passé de l'objet de soins au sujet de droit. Ça, c'était dedans. Mais je crois que tout le monde a oublié et a tout de suite s'est précipité, peut-être un peu trop vite, dans les outils, et c'était très utile, tous ces outils qu'on a bâtis, l'évaluation de cet ensemble. Après, on est rentré dans la compensation, on a été très 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 vite, mais on a tout simplement oublié que on était face à une personne, et donc cette personne-là, il fallait tout simplement lui demander son avis, et ce qui est en train de surgir, on a quand même attendu 20 ans pour permettre aux personnes qui étaient en déficience intellectuelle ou en trouble intellectuel de pouvoir avoir accès, de pouvoir aller voter. C'était l'année dernière, pour les personnes qui ont des troubles déficitaires intellectuels et de pouvoir...
Ce ne sont pas des sous-citoyens.
Non.
Ce sont des citoyens à part entière.
Ce qui nous a permis d'ailleurs d'entendre un certain nombre de remarques assez désobligeantes justement sur ces citoyens et de montrer que nous n'étions pas encore totalement dans l'inclusif pur. Mais je trouve que c'est bien d'affirmer les droits, et je suis juriste, donc je rentre volontiers par les droits, ça j'avais bien compris, surtout qu'on a oublié dans notre cloisonnement médico-social de 2002 que la même année, au mois de mars, il y a eu la loi Kouchner qui a réaffirmé les droits du patient. Donc on aurait peut-être pu... Vous voyez, déjà à cette époque-là, on était bien cloisonnés et c'est bien de continuer à évoluer et à élargir notre champ.
Et à décloisonner notre champ. Je vous propose de partir en Amérique latine et peut-être du côté de la Colombie.
Avec plaisir.
Esprit Occitanie, mon invité Philippe Jordi dans Sentinelle d'Humanité, une émission coproduite par l'ANRAS, Association nationale de recherche et action solidaire. Monsieur Philippe Jordi, vous êtes un militant, vous êtes actif, vous êtes sur tout le terrain et vous êtes sur un terrain, pourrait-on dire, politique et syndical, le mouvement. Vous êtes le délégué régional de la FEAP. Est-ce que vous pouvez déjà nous décrire ce que c'est que cette fédération FEAP? C'est une fédération, après?
C'est une fédération, oui, fédération, établissement hospitalier d'aide à la personne de droit privé solidaire. Donc privé, vous savez, en France, finalement, au départ, il y avait nous. Et c'est-à-dire que les soins, l'assistance publique de Paris s'occupait des pauvres, nous on s'occupait, ou des précaires, et nous on s'occupait des soins avec notamment souvent des congrégations religieuses et de toute cette approche. Tout le mouvement aussi de la mutualité qui a contribué, tout ce mouvement-là est arrivé. Ce mouvement était de droit privé, mais sans objectif financier autre que celui souvent porté par les associations 1901 d'apporter du mieux-être et donc d'avoir des associations et des administrateurs de la vie civile. Et puis petit à petit, on a vu arriver, et c'est très bien, l'hôpital public avec toute sa structuration qui s'est faite, et puis plus récemment, tout ce qui a été privé, ce qu'on appelle commercial, qui au début étaient des cliniques un peu familiales, dans lesquelles il y avait un investissement, et donc qui s'est progressivement développé, qui s'est amplifié aussi avec l'arrivée des groupes financiers, des groupes d'investissement.
C'est vrai que la santé devient un véritable business.
C'est un business, et la personne âgée aussi. On parle de silver economy, on parle de... Alors bon, ces mouvements-là se font, et que petit à petit, on a su, notamment sur la santé, puisqu'on représente à peu près 10%, notamment en médecine chirurgie obstétrique, il y a quelques beaux bastions dans la région parisienne, dans le nord, dans l'est. Ici, sur l'Occitanie, on a l'hôpital Joseph Ducoin, on a deux belles cliniques mutualistes à Montpellier, à Perpignan. On a aussi des centres psychiatriques, que ce soit dans le Lot, dans le Tarn, la Fondation Bon Sauveur. On a dans l'Aveyron et aussi dans l'Aude. On a beaucoup d'établissements de soins de suite et de rééducation. On a aussi de la dialyse, de l'hospitalisation à domicile. Et donc, ce qui veut dire que sur l'Occitanie, globalement, on a 613 adhérents, ce qui représente 160 organismes gestionnaires. Et au total, on a un peu plus de... Sur ces 600 établissements et services, on a à peu près une centaine qui sont sanitaires. Et historiquement, la FEAP, qui a été créée en 1936, était quand même avant tout un mouvement, justement ce mouvement-là, pour trouver la place, trouver des solutions. C'est toujours ça, que notre légitimité, nous, c'est de pouvoir être, aujourd'hui on appelle ça agile, mais de pouvoir trouver des solutions à partir des sujets qu'on nous a apportés. Donc ça, tant qu'on gardera cette énergie-là, c'est bon. Mais petit à petit, on voit qu'il y a des gros autobus qui sont arrivés, qui ont pleinement leur rôle et qui en le prennent. Et donc, de ce fait-là, notre rôle est parfois un petit peu plus complexe. Donc, la FEAP, c'est d'abord ce mouvement. Ensuite, elle a été porteur-employeur. C'était au départ uniquement sanitaire, la FEAP. Et elle est devenue porteur d'une convention collective, qui était celle de 1951. Après, il y a eu celle de 1966 qui a été plus tournée vers l'éducatif, la protection de l'enfance.
Et le social, voilà.
Après, il y a eu la FEAP qui a continué ce mouvement-là et qui s'est ouvert, qui fait qu'aujourd'hui, sur l'Occitanie, on a 305 établissements et services pour personnes en situation de handicap, 158 pour les personnes âgées. Donc là aussi, on a continué aussi à être... C'est la troisième voie de la FEAP qui est... Le lobbying qu'il peut y avoir pour pouvoir arriver à justifier notre action auprès des pouvoirs publics pour pouvoir obtenir les moyens qu'ils vont avec.
C'est donc un outil politique, un outil de lobbying, un outil de communication pour rendre visible l'action que vous menez dans vos établissements.
Totalement.
Et associations.
C'est bien cela. Totalement. C'est pour ça que j'ai commencé par le mouvement, parce que je crois que c'est très important, même si aujourd'hui on parle plus de l'approche fédération employeur, parce qu'on est fédération employeur. La FEAP, nous sommes adhérents aussi à la CGPME. Donc nous sommes bien dans la branche
de l'économie sociale et solidaire.
Parce que les... La CGPME, ce n'est pas obligatoirement du non lucratif. Et avec l'arrivée aussi de l'économie sociale et solidaire dans lequel nous sommes et nous le revendiquons, là aussi, on a tout le monde qu'on a découvert des SCOP, des sociétés civiles et tout cet ensemble-là qui sont aussi à vision lucrative quelque part. Et pour nous, le luxe n'est pas en soi pénalisé, mais simplement que chez nous, nous gardons quand même cette logique de pouvoir faciliter l'accessibilité. C'est vrai que dans nos établissements hospitaliers, il n'y a pas de dépassement d'honoraires, il y a tout un ensemble de... On est agréé aide sociale, partant de là, on ne prétend pas être plus vertueux que les autres, simplement qu'on continue la mission dans laquelle on était. Et parfois, on a un peu le sentiment qu'on est un peu restreint et peut-être pas complètement reconnu.
Quels sont les grands chantiers de l'AFEAP aujourd'hui, les chantiers politiques ? Je vous dis cela, monsieur Jourdi, parce qu'il y a eu récemment les élections au conseil départemental et à la région. L'AFEAP et d'autres fédérations et d'autres associations ont porté des plaidoyers. Il y aura bientôt, mais on en parle déjà, l'élection présidentielle, il y aura des positions, tout le monde va faire du lobby. Vos chantiers menés par l'AFEAP, c'est quoi dans les 2 années à venir? Vous voulez porter une voix forte sur quel sujet?
Alors, ça va paraître un petit peu naïf, mais on veut continuer à ne pas perdre de vue ce qui nous unit et ce qui nous motive. C'est pour ça que l'AFEAP vient de voter, l'Assemblée générale récente a voté son projet associatif, son projet fédératif.
Voilà.
Son projet fédératif pour les 5 prochaines années, et donc dans lequel il y a notre volonté d'être toujours présent et le mieux possible dans les différents champs dans lesquels on est présent, et le fait d'être sur le sanitaire aussi bien médecine, chirurgie obstétrique et tous les autres de la santé, et aussi sur le handicap, sur les personnes âgées et sur le social, montre que le F de la FEAB veut dire quelque chose. C'est la fédérative entre des acteurs qui n'ont pas obligatoirement la même vision, et donc l'objectif, c'est toujours de retrouver ce qui nous unit. On a aussi un axe qui est très important, qui est aussi de faire reconnaître aussi notre capacité d'employeur et l'attractivité de notre secteur, parce qu'actuellement, on a un gros souci. Et le troisième, c'est aussi la reconnaissance de notre œuvre, et aussi de faire en sorte que les adhérents, puisqu'une fédération n'existe que parce qu'elle a des adhérents, s'y retrouvent. Et quand on voit le nombre de nouvelles admissions et de nouvelles approches chaque année, on se dit qu'on doit remplir un peu notre mission. Et actuellement, notre bataille, ça a été, et on l'a avec nos amis de Nexem, nos amis de la CNAB, de l'URIOPS, on a été stupéfait de se rendre compte de ce Ségur dans lequel, oui, on savait que l'hôpital public était en difficulté, et dans lequel, d'un seul coup, on a vu s'ouvrir une négociation, le Ségur de la santé, et dans lequel, au début, il n'y avait que l'hôpital public, alors que pendant toute la crise, nos établissements ont été présents, tout le monde a été en première ligne aussi, et donc on a réussi à l'ouvrir pour le secteur de la santé, pour le secteur des EHPAD, et puis derrière, ça s'est refermé, alors que c'est un petit peu étonnant, ce qu'on applaudissait hier, d'un seul coup, ce sont, alors là, heureusement, nous avons été quand même entendus, et je sais qu'on n'a jamais été aussi fédératifs entre nous, coopératifs.
C'est la première fois.
C'est impressionnant, ça.
J'ai dit que c'est inédit, que c'est historique, autant de fédérations, autant de militantisme en commun pour mener un combat, et un combat qui est un combat noble pour nos salariés.
Ah ben, l'Asie, qui est quand même très syndiquée, avec des syndicats, on est en Occitanie, donc
mais
sud...
Terre radicale, pourrait-on dire, terre radicale.
Ah, on est vraiment dans le radical, sont un peu estomaqués de voir les photos qui ont été sur les réseaux sociaux, dans lesquelles on voit des directeurs d'établissements, des cadres, venir protester. Bon, il n'y a pas de jalousie, parce qu'on leur dit, ben, venez avec nous, parce qu'ils font aussi leur part du travail, mais... Manifestement, on ne nous entend pas assez, mais ce n'est pas possible, parce que là, on est en danger, sinon de mort. Parce que je ne veux pas non plus être trop pessimiste, mais là, il y a un énorme danger quant à notre capacité, parce que nous, ce qui fait notre spécialité, notre spécificité, c'est nos troupes, nos salariés, nos professionnels. Le sens troupe n'a rien à voir avec l'armée, mais c'est eux qui sont là en première ligne. Ils représentent dans les budgets, c'est 75% des budgets. Mais ce sont
c'est
réellement
bien des
nos
prestations
ressources.
De services, voilà, que nous offrons à nos concitoyens.
Alors s'ils ne s'y retrouvent plus chez nous, si dans la maison d'en face, qui est un hôpital public ou qui est un autre ou un EHPAD, ben, il trouve, c'est quand même 183 euros par, net par mois dont on parle. Donc s'il ne s'y retrouve pas, ben, il risque sinon de partir, mais au moins d'autres de ne pas venir.
J'ai l'impression que vous êtes en train de préparer la rentrée sociale et que septembre risque d'être chaud. Nous arrivons au terme de notre émission. Monsieur Jourdi, est-ce que vous pouvez nous dire, question très personnelle, quelque chose qui, dans votre métier, vous êtes fier, vous avez particulièrement réussi?
Ben, vous voyez, je suis en train de... Parce que je suis plutôt à la fin de ma carrière, quelque part. J'en approche quand même très fort. Et vous entendez que j'ai toujours le même enthousiasme, l'envie d'apprendre, l'envie de défendre. Alors, avec l'expérience, je ne suis plus un Don Quichotte qui se laisse avoir par des moulins. J'attends et je regarde pour ne pas m'empaler et partir avec. Mais de l'autre, je garde aussi ce sentiment aussi d'utilité, ce sentiment d'utilité. Et je trouve dans un métier, dans un secteur dans lequel on trouve de l'humain et de l'intelligence. Donc je trouve que malgré tout ce qu'on peut arriver à dire, et c'est vrai qu'on a tendance à dire, je continue à y prendre plaisir. C'est vrai que j'ai eu plusieurs, vous avez retracé ma carrière, mais j'ai toujours été dans cette approche qui était quand même d'être au service des publics et d'arriver à trouver la meilleure des solutions qu'ils puissent avoir avec quelque chose qui fasse sens dans une forme un petit peu autour de la solidarité. Vous voyez, ces mots qui semblent peut-être un peu désuets au moment où je trouve que liberté est en train d'essayer de bien se détacher, mais je trouve aussi qu'il a interrogé. Fraternité, par contre, on commence à le voir un tout petit peu plus petit, et comme disait René Char, les mots, il y a danger de mort lorsque les mots deviennent petits.
Merci, Monsieur Philippe Jourdi, d'avoir accepté mon invitation, Esprit Occitanie, dans l'émission Sentinelle d'Humanité. Il y aura d'autres combats pour défendre les plus faibles, les plus fragiles de notre société. Merci et à très bientôt, Monsieur Philippe Jourdi.
Merci beaucoup.